VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Villon, il est midi à Bangui, en Centrafrique. Bonjour à tous. Le président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est montré optimiste hier depuis Washington quant à la réussite de l'accord de paix signé en février avec des groupes armés et ayant débouché sur la formation d'un gouvernement incluant plusieurs de leurs membres. En visite dans la capitale américaine, il a souligné que cet accord, le 8e signé depuis le début de la crise, marqué par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé, comportait des mesures sur des sujets cruciaux comme le partage de pouvoir. L'accord de Khartoum a été signé début février entre le pouvoir et 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire de la Centrafrique. Un mois plus tard, les partis se sont entendus sur un gouvernement inclusif. Au Cameroun, les militants du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto, multiplient la pression pour obtenir la libération de leur leader. Les 17 militants interpellés hier à Yaoundé en marge d'une audience annoncée de M. Kamto ont été libérés. À Yaoundé, les précisions de Emmanuel Jules Ntap.
Au moins 500 militants de ce parti ont convergé hier vers la cour d'appel du centre à Yaoundé avec l'intention d'assister à l'audience de demande de mise en liberté immédiate de Maurice Kamto. Mais un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour les tenir à distance. En l'absence des prévenus qui ont refusé de sortir de leur geôle, la cour d'appel du centre à Yaoundé a décidé du maintien en prison du président du MRC, de 4 de ses alliés et 2 militants du MRC. L'opposant Kamto, qui revendique la victoire à la présidentielle de 2018, a été arrêté le 28 janvier dernier à Douala. La justice le poursuit, entre autres, d'incitation à la révolte. Monsieur Kamto, qui se déclare prisonnier politique, encourt la peine de mort. Il a demandé à être jugé en public et refuse de comparaître à huis clos. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Le Soudan à la croisée des chemins avec la persistance des manifestations anti-Omar el-Béchir qui ont débuté il y a près de 4 mois. Ce mardi, des milliers de personnes à Khartoum ont appelé l'armée à rejoindre leur mouvement. Les protestataires étaient réunis devant son QG pour le 4e jour consécutif. Peuvent-ils faire céder Omar el-Béchir? La réponse avec Gérard Prunier, chercheur spécialisé sur l'Afrique orientale.
On peut déjà considérer que la page Omar el-Béchir est tournée, mais ça n'est que le début des problèmes, pas la fin.
C'est-à-dire ?
Nous avons un gouvernement de type autoritaire, totalitaire, qui est au pouvoir depuis 30 ans. Si un monsieur s'en va, un système ne disparaît pas pour autant.
Des milliers de Soudanais ont appelé aujourd'hui l'armée à rejoindre leur mouvement. Est-ce qu'elle pourrait se retourner contre le régime ?
Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé 2 fois, puisque les Soudanais sont coutumiers du fait qu'ils n'aiment pas les dictatures. Ils en ont déjà renversé une en 1964 et une autre en 1985. Bon, Béchir s'est montré plus coriace que les autres. Mais à chaque fois, c'est le même scénario. C'est un mouvement civil, non armé, et puis à un certain moment, l'armée arbitre la situation en rejoignant les révoltés.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège estiment que les autorités soudanaises doivent proposer un plan de transition politique crédible. Ce scénario est-il envisageable ?
Non. Parce que, bien sûr, ils cherchent à pousser à ce que le gouvernement change sans un certain niveau de violence. Mais on ne voit pas du tout le groupe islamo-business, parce que ce sont pas des islamistes fanatiques, c'est juste un marqueur politique. Par contre, c'est très lié à une exploitation économique très avancée. On ne les voit pas tout d'un coup dire « Bon, ben, ça va, c'est fini. Merci beaucoup, au revoir » et négocier quelque chose de crédible.
Est-ce que la stabilité du pays, la sécurité des Soudanais est en jeu ?
Oui, bien sûr. Et le pays est fragile. Il est formé de l'agrégat de tout un ensemble de groupes ethniques et culturels et linguistiques différents. Ce gouvernement n'est certainement pas sympathique, il est d'une brutalité inouïe, mais en même temps, il empêche le pays d'éclater. Or, on a un exemple pas très loin qui est celui de la Somalie. Quand un pays éclate comme ça et qu'on n'est pas capable d'opérer une transition, c'est pendant les 20 ou 30 prochaines années qu'on essaye d'éponger les dégâts.
C'était l'historien Gérard Prunier, spécialiste de l'Afrique de l'Est. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui à New York. Les 15 vont se réunir à huis clos sur la Libye où des combats se déroulent au sud de la capitale. L'ONU a annoncé hier le report inédit d'une conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos. Les précisions de Irénée Amanoumbo.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et Herman nous revient maintenant sur la Libye.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, expliquera devant le Conseil sa décision de reporter une conférence nationale qui était prévue du 14 au 16 avril à Ghadames. En préparation depuis plusieurs mois, elle devait permettre de dresser une feuille de route à même de sortir le pays du chaos. Depuis jeudi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats qui ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Il doit cependant compter dans sa progression avec le gouvernement d'Union nationale qui a promis dimanche une contre-offensive sans précédent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'escalade de la violence autour de Tripoli et appelé à un arrêt immédiat des combats. Il a exhorté toutes les parties à engager immédiatement le dialogue afin de trouver une solution politique. Les organisations internationales craignent que les civils ne fassent une nouvelle fois les frais de ces affrontements interlibyens. Quelques 3400 personnes ont déjà été déplacées par les combats, selon l'ONU.
Merci, Eman. Au lendemain de sa nomination et malgré sa promesse d'un scrutin présidentiel transparent d'ici 3 mois, le chef de l'État algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, fait face aujourd'hui à de nouvelles manifestations et à un appel à une grève nationale. Alger, la capitale, quelques milliers de manifestants gardés par un important dispositif policier étaient déjà rassemblés ce matin sur la place du 1er mai et près de la Grande Poste, les deux poumons de la contestation qui ébranle le pays depuis 7 semaines. Les Algériens avaient clairement affiché leur refus de voir M. Ben Salah, ancien président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, âgé de 77 ans, prendre l'intérim, partisan d'un 5e mandat de M. Bouteflika. Il est une incarnation du régime rejeté par la rue. Le président américain Donald Trump a loué mardi le très bon travail de son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi en le recevant à la Maison-Blanche. C'est la deuxième fois que l'homme fort du Quai était reçu par M. Trump à la Maison-Blanche. Il n'avait jamais été invité par Barack Obama. Avant la rencontre, l'ONG Human Rights Watch avait exhorté les États-Unis à ne pas donner leur feu vert à un projet des réformes de la Constitution qui accorde à l'armée des pouvoirs très abusifs et institutionnalise davantage l'autoritarisme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit assorti de conditions et dont la durée reste toutefois déterminée lors d'un sommet extraordinaire ce mercredi soir. Afin d'écarter le spectre d'un no deal, le premier délai accordé à l'Union européenne, par l'Union européenne à Theresa May du 29 mars au 12 avril n'a pas porté ses fruits. Le Royaume-Uni n'est toujours pas en position de ratifier le traité de retrait négocié entre Bruxelles et Londres. La première ministre Theresa May devra donc convaincre ses pairs ce soir de lui laisser plus de temps pour allier les députés britanniques qui ont déjà rejeté le texte par 3 fois. Elle leur demande jusqu'au 30 juin et continue d'afficher sa préférence de ne pas participer aux élections européennes du 23 au 26 mai, une exigence de l'Union européenne si le Royaume-Uni est encore membre après le scrutin. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou semble assuré d'obtenir un 5e mandat malgré l'issue serrée des élections législatives qui donnent le Likoud sa formation au coude à coude avec l'alliance centriste bleu et blanc de Benny Gantz. C'est ce que rapportent en tout cas ce mercredi les 3 principales chaînes de télévision du pays. Après dépouillement de 97% des bulletins, aucun des deux partis n'atteint la majorité absolue à la Knesset. Mais l'arithmétique des alliances place le chef du gouvernement sortant en position de force. Le scrutin faisait figure de référendum sur la personnalité et le bilan du Premier ministre qui est sous le coup de plusieurs enquêtes pour corruption dans la mesure où son programme diffère peu de celui de M. Benny Gantz sur des questions telles que l'Iran et les relations avec les Palestiniens. Et puis, pour terminer, le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé aujourd'hui que les autorités électorales devraient annuler le scrutin municipal remporté par l'opposition à Istanbul, estimant que des irrégularités rendaient le vote illégitime selon des propos rapportés aujourd'hui. Selon les résultats provisoires du scrutin municipal qui s'est tenu le 31 mars en Turquie, M. Erdogan a essuyé un cinglant revers en perdant Ankara et Istanbul, les deux principales villes du pays qui étaient contrôlées par l'AKP et ses prédécesseurs islamistes depuis 25 ans. Jean-Roger Billon à ce micro. Vous suivez le journal de VOA Afrique, dont c'est la fin d'ailleurs. Le prochain, c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.